Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire une promesse. Est-ce que vous aimez les promesses dans la parole de Dieu? Vous aimez les promesses? Vous êtes pas, vous n'avez pas l'air très intéressé par les promesses. Est-ce que vous avez besoin de promesses? Oui, on a besoin. Il faut être honnête, s'il y a tant de promesses dans la Bible, c'est parce que nous en avons absolument besoin. Nous allons en lire une dans Matthieu, au chapitre 28. C'est la dernière parole du Seigneur Jésus dans cet évangile. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de promesses. C'est très très important que nous soyons encouragés, fortifiés par les promesses de l'Écriture. Matthieu chapitre 28, la fin du verset 20, la dernière phrase. Je pense que nous avons toujours été fortifiés par les promesses. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous la connaissez cette promesse? Vous la connaissez, tout le monde la connaît. Tous les chrétiens ont été fortifiés par cette promesse. Est-ce que vous vous rendez compte? Tous les jours, tous les mardis soirs, le Seigneur est avec nous. Vous le croyez que Dieu est avec nous? Tous les jours, est-ce que vous vous rendez compte de la portée de cette promesse? Parce que nous en avons besoin. Réellement, par rapport à tout ce que nous traversons, nous avons besoin de certaines promesses. Des promesses, ça ne peut pas être plus extraordinaire. Tous les jours de notre vie, le Seigneur nous promet qu'il sera avec nous. Mais dans l'Écriture, il n'y a pas que des promesses. Il y a aussi des avertissements. Et il faut tenir compte des promesses, mais il faut aussi tenir compte des avertissements. Il y a des chrétiens qui ne sont intéressés que par les promesses. Et ils vivent dans une espèce de bulle. Ils ne sont pas conscients qu'il y a dans la parole de Dieu des promesses, des prophéties, des commandements et aussi des avertissements. Alors nous allons en lire un dans le livre des Nombres qui semble justement contredire ce qu'on va lire, ce qu'on vient de lire. Dans le livre des Nombres, chapitre 14, au verset 34, la fin du verset 34, le Seigneur donne un avertissement qui nous fait réfléchir. À nous aussi, chrétiens du 21e siècle, la fin du verset 34, nous allons lire tout à l'heure un peu plus dans ce chapitre, mais voilà, c'est un avertissement. Le peuple, je vous résume un petit peu le chapitre, le peuple a mal réagi, il n'a pas fait confiance, il y a dans leur cœur beaucoup de doutes, beaucoup d'incrédulité, en fin de compte beaucoup de désobéissance, ils n'ont pas fait ce que Dieu leur avait demandé. Et qu'est-ce que Dieu va leur dire? La fin du verset 34, « Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Voilà ce qui arrive lorsque le peuple de Dieu n'écoute pas, n'obéit pas. Donc, si on est honnête, qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, on voit qu'il y a une promesse de Dieu, une promesse qui nous fortifie, qui nous réjouit parce qu'on en a besoin, et de l'autre, un avertissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut être au milieu de nous, qu'il est au milieu de nous, mais qu'à cause de notre désobéissance, à cause de notre incrédulité, il ne va pas agir comme il aurait voulu agir. Est-ce que vous croyez que ça peut arriver encore aujourd'hui, ça? Eh bien sûr. Que Dieu, dans sa bonté, nous rappelle qu'il est tout le temps avec nous, mais que si nous ne nous comportons pas comme il nous le demande, certains avertissements peuvent nous être attribués et Dieu pourrait nous dire « Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » On le voit plusieurs fois dans la parole de Dieu. Regardez avec moi. Il y a d'autres exemples, mais j'ai pensé à celui de Josué. Dans Josué, par exemple, quand cet homme est choisi par Dieu pour succéder à Moïse, Dieu va lui faire des promesses. Il commence par des promesses. Parce que, de toute façon, je le répète, on a besoin de promesses. Ça, c'est sûr. C'est important. Donc Dieu lui fait des promesses, Josué chapitre 1er, verset 5, il lui fait une promesse qu'il nous fait à nous, parce qu'elle est dans le Nouveau Testament. Josué chapitre 1er, verset 5. Voilà, on pourrait prendre plein d'exemples. On pourrait prendre plein d'exemples dans la Bible pour vérifier ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'il lui dit? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est pas une promesse, ça? Est-ce qu'elles sont pour nous aussi, ces promesses? Oui, elles sont pour nous. Mais là, c'est vrai que Dieu lui dit directement, Dieu nous le dit aussi dans le Nouveau Testament, est-ce que vous vous rendez compte? Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas. Mais plus loin, quand vous allez dans le chapitre 7, vous voyez que Le peuple ne s'est pas comporté comme il fallait, ils n'ont pas obéi, ils sont partis alors que Dieu ne leur avait pas demandé, etc., etc., etc. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Alors, Josué chapitre 7, verset 12, « Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au chapitre 1er, Dieu dit à Josué, « Je serai toujours avec toi. » Et au chapitre 7, Dieu dit à Josué, « Je ne serai plus avec toi. » Alors, est-ce que Dieu ne sait pas ce qu'il dit? Est-ce que Dieu dit n'importe quoi? Ou est-ce que ça tient debout? Bien sûr que ça tient debout. Dieu sait ce qu'il a à nous dire. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit toujours avec nous. Et Dieu peut être toujours avec nous. Mais notre attitude, notre comportement, notre désobéissance, notre incrédulité peuvent empêcher Dieu d'agir. Et ça, c'est un véritable problème. Lorsque nous empêchons Dieu d'agir. Et je me réjouis de la réunion qu'on a eue avec les anciens samedi matin, où on a vraiment travaillé la parole de Dieu, comme on l'a fait un petit peu les deux derniers cultes, pour que Dieu nous montre exactement ce qu'il attend de chacun de nous. Parce que ce que Dieu doit faire, lui, ne vous inquiétez pas, il le fera. Mais nous devrions nous préoccuper par ce que nous avons à faire. Alors, une promesse d'un côté, un avertissement de l'autre, on pourrait passer la soirée à expliquer ces deux vérités. Et maintenant, on va voir une autre vérité dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 8. Jésus, avant de remonter au ciel, va faire une promesse extraordinaire. Vous la connaissez également, mais c'est bien de la relire. Jean chapitre 16, verset 8. Le Seigneur Jésus parle du fait qu'il va partir et il explique qu'il va nous laisser le Consolateur. Et qu'est-ce que va faire le Consolateur sur la terre? C'est résumé dans Jean au chapitre 16 et au verset 8. Et quand il sera venu, le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, nous voyons dans ce texte ce que Dieu peut faire. La présence du Saint-Esprit est capable de convaincre le monde de péché. Est-ce que vous le croyez, ça? Parce que nous, on se pose des questions. Comment faire pour atteindre le monde? Mais Dieu, lui, avant qu'il ne remonte au ciel, avant que Jésus ne remonte au ciel, nous dit exactement quelle sera la mission première du Saint-Esprit de convaincre le monde de péché. Alors, ça nous parle du baptême du Saint-Esprit en même temps. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit? Les cantiques que nous avons chantées ce soir nous ont rappelé la bénédiction de la présence de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Sinon, être envahi par la présence de Dieu. J'ai tellement entendu deux choses, moi, sur la présence du Saint-Esprit, mais on peut le résumer à cette bénédiction. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est envahi par la présence de Dieu. C'est un baptême de l'amour de Dieu. Est-ce que vous aspirez à un nouveau baptême? On l'a chanté, on nous a encouragé à être renouvelé dans ce baptême dans le Saint-Esprit. Mais est-ce que ce n'est pas ça qu'on a besoin? Qu'est-ce qui se passe dans les actes des apôtres? Dans l'évangile, c'est Dieu qui agit. Dans les évangiles, c'est Dieu qui agit par le Seigneur Jésus. Dans les actes, c'est Dieu qui agit par l'Église. Mais l'Église, quand elle commence son ministère, est baptisée dans le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas le dire autrement. L'œuvre de Dieu, elle peut se faire à cause du baptême du Saint-Esprit. Et quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous observez une chose, que chaque fois que les chrétiens étaient baptisés dans le Saint-Esprit, ils s'étaient manifestés par le parler en langue. Oui ou non? Il y avait quelque chose qui se manifestait, il y avait des fruits. Parce qu'il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais le fruit, je vous avoue, qu'on peut quand même se poser des questions. En tous les cas, c'était le signe audible que la présence de Dieu s'était manifestée. C'est ce que nous voulons dans l'Église, oui ou non? Est-ce que c'est pas ça que nous voulons vraiment? Que la présence de Dieu se manifeste? Est-ce que vous, c'est important de dire à nous, on est évangélique ou pentecôtiste ou ceci ou cela? Ou est-ce qu'on veut véritablement que la présence de Dieu se manifeste? L'apôtre Paul l'explique très bien dans 1 Corinthiens 12, quand il parle aux chrétiens, il dit, mais vous savez, moi je parle en langue plus que vous tous. Est-ce que c'était de l'orgueil? Non, il explique que lui, il avait besoin d'avoir des moments de communion avec le Seigneur. Quand on voit les révélations qu'il a reçues, on en déduit qu'il aimait se retrouver dans la présence de Dieu. Quand il dit « je parle en langue plus que vous tous », il explique qu'il aimait la présence de Dieu et qu'il se retrouvait vraiment dans la présence de Dieu. Mais il dit que quand il est dans l'église, il préfère parler, prier avec des mots intelligibles que les autres comprendront. Mais la vie de l'esprit est quelque chose qui doit nous rassurer, pas nous affoler, parce que la vie de l'esprit, c'est la vie de la présence de Dieu dans l'église. Alors j'aimerais lire un texte avec vous, un texte très encourageant, dans 1 Corinthiens au chapitre 14. L'apôtre Paul enseigne énormément sur la vie de l'esprit, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. Mais regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 14, il dit quelque chose de très très important. On va lire 1 Corinthiens 14 jusqu'à 1 Corinthiens 25. Corinthiens 14, 25, bien sûr. Voilà, regardez bien. C'est extraordinaire ce que nous allons lire. Parce que ça ne peut que nous encourager à vouloir être saisis par la présence de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 23. « Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais, lisez bien, si tous prophétisent et qu'il entre non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous et vous pouvez dire Amen. » Dernièrement, j'ai discuté avec un arabe chrétien. Et je lui ai dit, mais comment vous vous êtes converti? Il me dit, écoutez, j'ai été invité à l'église. Il y a un gars qui a donné un don spirituel en arabe. Il connaissait, en plus, il a été le voir à la fin, et le gars ne connaissait pas un mot d'arabe, bien sûr. Et ça a été interprété, et c'était vraiment pour lui. J'ai été convaincu que Dieu était au milieu d'eux. Et mes frères et sœurs, nous nous rendons compte de l'importance des dons spirituels, l'importance, pas des dons spirituels pour les dons spirituels, mais l'importance de la présence de Dieu. Parce que le texte dit, il publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. Parce que c'est une chose que nous on dise, oui, Dieu est au milieu de nous, ce qui est vrai, mais ça n'est une autre que les pécheurs, les indifférents, les athées, les blasphémateurs, invités par des amis et par la volonté de Dieu, disent « mais non, Dieu est au milieu d'eux ». Est-ce que ce n'est pas ça que nous voulons? Franchement, mes frères et sœurs, nous sommes l'Église du Seigneur. Nous sommes là parce que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est qui peut remplacer la présence de Dieu? Absolument rien. Est-ce que vous n'avez pas envie que vos amis que vous allez inviter disent « oui, Dieu est au milieu de vous » plutôt que nous, on se fatigue à leur dire « oui, tu sais, Dieu est au milieu de nous, tu sais, le Seigneur est au milieu de nous ». Il vaut mieux que ce soit eux qui le disent, vous ne croyez pas? Et c'est ce que nous devons faire, nous devons nous appliquer à ce baptême du Saint-Esprit, à cette vie de l'Esprit, à ce renouveau des « mais Seigneur, je veux tout faire dans ma vie pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à la prière, pour que mon cœur soit pur, que ma vie soit sanctifiée ». Quand on voit, je l'ai dit, mais quand on voit des chrétiens grossiers, des chrétiens qui mentent, des chrétiens qui vivent dans le péché, et puis après qui lèvent les bras, moi je vous assure, ça me fait de la peine parce que je sais que ça crée un interdit dans l'Église. Et que nous devons avoir le souci de dire, oh que oui, que les prochains pécheurs qui viennent, dimanche matin, s'il y a un pécheur qui dise, Dieu est au milieu d'eux. Vous n'avez pas envie d'entendre ça? Il le publiera, il ne va pas le dire intérieurement. Il dira aux gens, vous savez, Dieu est dans cette église. Dieu est dans cet endroit où les chrétiens se rassemblent. Et c'est là que ça nous fait prendre conscience de l'importance de la présence de Dieu. Dimanche matin, j'ai parlé de l'importance du discernement spirituel. Les chrétiens, ils n'en ont rien à faire. Pourtant, c'est important. Je l'ai dit, examiner toute chose. J'ai parlé des promesses, j'ai parlé des avertissements. J'ai pas le temps ce soir de parler des commandements, mais quand même, est-ce que vous aimez les commandements? Est-ce que c'est pas quand même extraordinaire si tu étais attentif à mes commandements? Les gens ne sont pas attentifs aux commandements. Les gens ne cherchent pas Dieu. Parce que la présence de Dieu, il faut chercher la présence de Dieu. Les gens disent, mais si, je prie. Oui, oui, mais ils cherchent la bénédiction. Et je nous pose la question, à vous et à moi, je nous pose la question, que cherchons-nous? Est-ce que nous cherchons la présence de Dieu? Ou est-ce que nous cherchons la bénédiction de Dieu? Quand je prie pour être béni ou je prie pour être dans la présence de Dieu? les frères, les pasteurs, les anciens, quand nous préparons un sermon, nous cherchons un sermon, parce qu'il faut trouver un sermon, ou nous cherchons la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez de suite qu'il y a une énorme différence entre chercher la présence de Dieu, demain matin vous allez faire votre culte, vous n'avez qu'un quart d'heure, vous avez une demi-heure, j'en sais rien le temps que vous avez, mais vous cherchez la bénédiction ou dans ce culte vous cherchez la présence de Dieu. Et je crois, mes frères et sœurs, que quand on lit le livre des Actes, qui est quand même le livre qui nous parle de la naissance de l'Église, de la façon dont Dieu bénit l'Église, vous voyez une chose, la manifestation de la présence de Dieu. C'est important, mes frères et sœurs, que nous puissions tous travailler à faire en sorte que la présence de Dieu puisse se manifester au milieu de nous. Parce que nous ne passerons pas au travers. Regardez Josué, qui était quand même, c'était quelqu'un Josué. Et vous voyez, à qui Dieu a fait des promesses, en veux-tu, en voilà, et je serai avec toi. Je veux dire, ça ne pouvait pas être plus clair. Et bien Dieu a dit à Josué, cet homme, ce chef d'État hors pair, et bien je ne serai pas avec toi. Je ne serai plus avec toi tant que l'interdit demeurera au milieu de toi. Et je crois qu'il faut que nous soyons honnêtes. Lucas le disait tout à l'heure, que le Seigneur nous éclaire, que par la bouche de son serviteur, mais surtout que par le Saint-Esprit, Dieu me montre s'il y a encore dans ma vie un péché. Oui, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Vous savez, nous avons besoin de ce nouveau baptême. Moi, j'ai besoin d'un nouveau baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin d'un nouveau baptême de l'Esprit. Vous n'en avez pas besoin, vous ? Moi, j'en ai besoin. Et je crois qu'on peut... Est-ce qu'on peut le demander ? Est-ce que dans quelques minutes, on peut dire, « Oh Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit. » Est-ce que les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les couples, on peuvent dire, « Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. » Si quelque chose doit se passer dans l'Église, et nous voulons que quelque chose se passe, ça ne peut se passer que par la présence de Dieu. On a vu des gens touchés. On a vu des gens pleurer avant même la prédication de la parole de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je l'ai vu ici, des gens, et ailleurs, des gens qui se sont mis à pleurer avant même que l'on commence le culte, touchés par la présence de Dieu. On a même parfois dit, eh bien, si quelqu'un est touché avec ce qu'on a entendu, comment quelqu'un pourrait-il être touché avec ce message qu'il ne tenait pas debout? Et la personne, elle était convaincue de péché. Mais pourquoi? Parce que la prédication est excellente? Non, mais parce que le Saint-Esprit agissait dans l'Église à cause de la présence de Dieu. Alors nous, on s'imagine, parce qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu bénisse? Quel orateur inviter? Faut-il chanter sur les ailes de la foi? Ou faut-il chanter sur les cantiques modernes? Faut-il inviter tel prédicateur? Faut-il de la musique d'ambiance? Faut-il des lumières? Aujourd'hui, il y a des lumières. Il y a même des endroits où on met des fumigènes. Est-ce qu'il faut ceci? Est-ce qu'il faut cela? Est-ce qu'il faut pas? Est-ce qu'il faut un pianiste pendant que le pasteur prêche? J'ai entendu ça plusieurs reprises dernièrement dans des églises évangéliques. Pendant que le pasteur prêche, il y a un peu de piano. Non, mais c'est ridicule. Vous voyez, quand il n'y a pas la présence de Dieu, ce qu'on est obligé de calculer, quel mot utiliser, est-ce qu'il faut parler de tel et tel, utiliser tel ou tel vocabulaire. Mes frères et sœurs, quand il y a la présence de Dieu, on n'a pas besoin de se poser toutes ces questions. Et c'est de notre responsabilité à chacun. Vous qui faites partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, je m'adresse à tous ceux qui ont pris le baptême par immersion. Si vous découvrez l'Évangile, vous êtes en train de choisir. Mais si vous avez pris le baptême par immersion, c'est de notre ressort à chacun d'entre nous de dire « Il faut que je travaille de telle sorte que je sois tout à nouveau baptisé du Saint-Esprit pour que véritablement rien ne vienne faire obstacle à la présence du Seigneur. » Le Seigneur Jésus ne peut pas être plus clair. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché. Vous avez vu l'histoire des rois dans l'Ancien Testament? Vous avez vu? Vous avez lu le livre des rois? C'est un truc hallucinant. Vous êtes bouleversé, vous voyez des rois qui ont eu des victoires avec une petite armée de rien du tout, et vous avez des rois qui ont eu des armées considérables, qui ont eu une défaite terrible. Pourquoi? Pourquoi l'un était béni avec une petite armée? Pourquoi l'autre était pas béni avec une grande armée? Eh bien parce que c'était... Oui ou non, il y avait la présence de Dieu au milieu d'eux. Un jour, Dieu a même dit à un roi, tu manifesterais des actes de bravoure au combat, Dieu ne sera pas avec toi. Ce qui prouve que quoi que ce soit que l'on fasse, ça peut ne servir à rien. Ce qui est important, c'est de dire, voilà, Seigneur, ta présence. Est-ce que vraiment c'est votre souci? Vous êtes chrétien? Vous aimez le Seigneur? Alors donc, vous avez le souci de dire, mais je ne veux pas être un obstacle dans l'Église de Jésus-Christ. Oui ou non? Est-ce que c'est votre souci? Oh, il y a ça qui ne va pas. Seigneur, éclaire-moi. Vous avez vu, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit en vérité, le Seigneur Jésus? Quand il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché. Ça veut dire que Dieu n'a aucun problème pour convaincre un pécheur. Est-ce que vous le croyez que Dieu peut convaincre n'importe quel pécheur? Vous demanderez à Saul de Tarse et vous verrez si Dieu peut convaincre un grand pécheur de péché. Est-ce que Dieu peut convaincre n'importe quel pécheur? Parce que nous, on essaie parfois, nous, de convaincre les gens de péché. C'est pas vrai que des fois, on aimerait... Est-ce que vous aimeriez pouvoir convaincre les gens de péché? Quoique les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, moi je me souviens, le chrétien qui m'a parlé de Dieu, je m'en souviens vraiment, et qui me posait des questions, je trouvais ça bête et tout, mais plus il me parlait, plus j'étais convaincu de péché. Et je suis persuadé que si, à la place de nous occuper du travail de Dieu, nous nous occupions de ce que Dieu nous demande, nous verrions davantage de résultats. Il convaincra le monde. Ça veut dire que le Saint-Esprit que peut convaincre n'importe quel pécheur, quel qu'il soit. Le problème, ce n'est pas de nous préoccuper comment le Saint-Esprit va convaincre. Le problème, c'est que nous devrions nous dire, mais comment je dois faire pour que sa présence puisse agir dans l'Église? Là, le pécheur, c'est pas grave. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Nous ne vous préoccupez pas du pécheur, de sa noirceur et de sa misère. Nous, nous devrions nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans l'Église? Est-ce que je suis un obstacle à ta présence? C'est pas la question qu'on devrait se poser? Et voilà. Est-ce qu'il n'y a pas dans ma vie des péchés secrets qui empêchent ta grâce de se manifester? La question qu'il faut que nous nous posions, que nous devrions poser à tous les chrétiens de ce pays, le Seigneur peut-il agir par sa présence dans son Église? Le problème de sa présence, c'est réglé. Je suis avec vous tous les jours. Ça, c'est réglé. Mais peut-il le faire? Peut-il manifester sa présence? Quelle est votre responsabilité? Quelle est ma responsabilité? Quelle est notre responsabilité entière de prier ensemble? Est-ce que c'est important que l'Église soit une maison de prière? Et je vous encourage à venir prier. Ce soir, j'ai entendu des frères et des sœurs que je n'avais jamais entendus. Ça m'a encouragé. Parce que je crois que c'est ça l'Église, que nous nous attachions à Dieu et que nous venions intercéder. Ce sont des choses que Dieu demande. Ce n'est pas qu'une réunion de frères et de sœurs, ce n'est pas que la communion fraternelle. L'Église, c'est une armée d'hommes et de femmes qui combattent le bon combat de la foi. Donc, notre travail à nous ne consiste pas à convaincre les gens de péché. N'essayez pas de dire, on peut prier, Seigneur, convainc les gens de péché. Est-ce que Dieu est d'accord quand on dit, Seigneur, convainc les Toulousains de péché? Est-ce que Dieu est d'accord? Mais bien sûr, c'est une prière, ça c'est sûr que Dieu est d'accord. Vous n'avez pas besoin de lui demander son avis. Vous pouvez être sûr qu'il est d'accord si vous dites, Seigneur, convainc les Toulousains de péché. Croyez-moi, mais c'est lui qui le fera. Ça c'est le travail du Saint-Esprit. Mais nous devrions vraiment, moi je me pose la question, c'est pour moi cette prédication, elle est pour moi aussi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois continuer à faire? Quel est mon rôle? Comment agir sur, entre guillemets, sur le cœur de Dieu? Comment faire pour que la main de Dieu soit sur moi? On a entendu des témoignages d'hommes qui faisaient mouvoir la main de Dieu. Vous avez certainement lu l'histoire des revivalistes. On disait de certains hommes qui faisaient mouvoir la main de Dieu. C'est pas des beaux témoignages ça? Quel témoignage? Alors, dans les églises aujourd'hui, et je le dis d'une manière générale, je ne me moque pas, je ne méprise personne, on est en train de chercher des méthodes. L'homme, lui, cherche des méthodes, comme je le disais tout à l'heure, quel cantique, quel prédicateur, quelle tête d'affiche, ah, si on invite tel gars, il est connu, oh, il va y avoir du monde. Vous voyez, voilà, c'est vraiment, c'est lamentable. Bon, c'est pas la peine d'aller là-dedans. Mais, mes frères et sœurs, nous sommes venus ce soir dans sa maison, je pense que vous avez prié pour la réunion. Vous avez dit, Seigneur, parle-nous. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Moi qui ai pris le baptême il y a 3 ans, il y a 6 ans. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Dieu attend de chacun de nous que nous travaillions à faire en sorte que son nom soit sanctifié afin que le Saint-Esprit puisse agir dans l'Église. Mes frères et sœurs, il faut que l'Esprit de Dieu agisse dans les cœurs, parce que c'est la volonté de Dieu. Il y a certains impératifs, il faut, qui sont bibliques. Est-ce que c'est biblique ça? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Est-ce que c'est biblique? Ou est-ce que c'est du légalisme? C'est biblique. Il faut qu'il croisse dans ma vie. Il faut qu'il croisse dans chacune de nos vies. Nous devons nous occuper de la présence de Dieu. Et je crois que quand même c'est important que dans une église, on arrive et qu'on se soucie de la présence de Dieu. Je lisais dernièrement un livre de John Bevere qui parlait qu'il a été dans un rassemblement, il est rentré, il avait envie de pleurer. Tout le monde parlait de sport, de football, de tennis, de ceci, de cela, dans l'église du Seigneur. Il leur a dit, mais il faut arrêter. Vous voyez, parce que leur cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, il ne faut pas rêver. Si mon cœur est embrasé de choses spirituelles, j'ai envie de m'entretenir de choses spirituelles. Si mon cœur est accaparé par autre chose, ben je vais parler d'autre chose. Oui ou non? Alors, faut pas s'étonner que la présence de Dieu ne se manifeste pas dans l'Église, même si nous pouvons tous, mais alors tous dire avec ferveur, oui, je sais que le Seigneur est avec moi tous les jours. Tout le monde peut le dire. Tous les chrétiens peuvent le dire. Mais ce n'est pas parce que je vais parler de la présence de Dieu que Dieu va manifester sa présence. Je peux parler de la présence de Dieu pendant 30 heures de suite, ça ne va pas l'obliger à manifester sa présence. Par contre, si d'une manière sérieuse, saine, je me dis, bon, ce soir Seigneur tu m'as parlé, il faut que je travaille à connaître exactement ce que tu attends de chacun de moi. Je veux véritablement m'occuper de la présence de Dieu. Alors Seigneur, tu vas me montrer ce que je dois faire. Tu vas me montrer ce que je dois vivre. Est-ce que c'est important pour vous, la volonté de Dieu au travail? Comment vous devez vous comporter au travail? On voit des chrétiens, quand on voit comment ils parlent à leurs collègues, à leurs patrons, comment ils réagissent, comment ils se comportent, j'espère presque que dans ces endroits-là, ils ne savent pas que c'est des chrétiens. Ça vous étonne ce que je vous dis? On devrait se réjouir que dans les entreprises, il y a des chrétiens qui se comportent plus mal que des païens. Et Dieu dit, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, je crois qu'on le sait assez. Est-ce que vous avez envie que Dieu vous dise, vous saurez ce que c'est que de voir ma présence? Vous n'avez pas envie que Dieu dise ça dans l'église? Vous allez voir ce que c'est que ma présence. Et mes frères et sœurs, c'est tous notre responsabilité. Bien sûr que les pasteurs, les anciens, on a une responsabilité beaucoup plus aiguë là-dedans. J'en conviens. Mais c'est quand même la responsabilité de chacun que nous fassions ce que Dieu nous demande. Dans le livre des Nombres, chapitre 14, on va quand même regarder. Vous avez gardé la page? Regardez avec moi. Dans le livre des Nombres, chapitre 14, bon, ils n'ont pas obéi. Alors, bien sûr, ils voulaient combattre. Nombres chapitre 14. Regardez avec moi. Alors, Dieu leur dit, ils n'ont pas obéi, ils ont vraiment fait l'inverse. Donc Dieu leur dit, vous saurez ce que c'est. Verset 35, moi l'Éternel j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Au verset 39, Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Regardez bien, ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel. Oui, vous voyez, maintenant il veut y aller. Car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous et vous tomberez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera pas avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma. Voilà. Que c'est triste. Vous ne trouvez pas que c'est triste? Alors ils ne veulent pas y aller, ils désobéissent. Quand Dieu leur dit, mais voilà, vous n'avez pas voulu y aller, mais vous serez privés de ma présence. Et maintenant ils veulent y aller. Plutôt que de se repentir et d'attendre de nouveau que Dieu leur montre ce qu'ils avaient à faire, ils se sont entêtés. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu ne nous bénit pas, ne nous entêtons pas. Lorsque Dieu ne nous bénit pas, ou lorsque Dieu ne nous bénit plus, arrêtons-nous, humilions-nous et demandons-lui qu'il nous éclaire. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Vous avez vu, ils se sont entêtés, et bien sûr, il y en a qui sont morts. Et on perd les plumes, croyez-moi, quand on veut faire les choses par notre propre force. Si Dieu nous dit, je ne serai pas avec toi dans cette affaire, ce n'est pas la peine d'avancer, il vaut mieux s'arrêter et dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à retrouver la communion avec toi. Et quand Josué, par exemple, a retrouvé la communion avec toi, avec Dieu, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de nouveau, Josué est reparti et a vu la gloire de Dieu comme Dieu le voulait. Eh bien, mes frères et sœurs, il nous arrivera la même chose. Dieu nous dit ce soir, je suis avec vous tous les jours. Cette promesse, il ne revient pas dessus. Elle est non négociable. Dieu est avec nous. Mais son avertissement est valable aussi. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Alors, peut-être que certains sont privés de la présence de Dieu, peut-être que l'Église est privée de la présence de Dieu, mais je crois qu'on doit tous dire personnellement, Seigneur, fais de moi cet homme de Dieu, cet homme, cette femme de Dieu, qui va chercher ta face, qui va se purifier, se sanctifier, qui va véritablement chercher ta pensée. Est-ce que vous êtes d'accord pour cela ? Est-ce que vous êtes d'accord, non seulement ici, mais chez vous, de dire, oh Seigneur, ça, je ne veux pas que ça t'attriste, je ne veux pas que ça fasse obstacle à la prière. Vous avez vu dans la Bible, quand il est dit, mariez, aimez vos femmes, femmes, soumettez-vous, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est important ça ou c'était pour le Moyen-Âge ? Non mais moi quand j'entends, vous savez, quand j'entends certains chrétiens, ça me brise le cœur. Je pense que c'est important que dans les couples, nous nous aimions, nous nous soumettions les uns aux autres, nous ayons de l'affection, que les enfants soient soumis aux parents, etc. etc. Est-ce que c'est important ? Eh oui, toutes ces choses, il faut les faire, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit peut convaincre de péché. N'importe quel pécheur de Toulouse. Et Dieu peut envoyer des pécheurs. Est-ce que Dieu peut envoyer un pécheur dimanche ? Un. Est-ce qu'il peut en envoyer un ? Est-ce qu'il peut en envoyer cinq ? Est-ce qu'il peut en envoyer dix ? Combien le Saint-Esprit peut-il envoyer de pécheurs dimanche ? Dites-moi. Ouais. Dieu est souverain. Mais s'il n'y a pas beaucoup du Saint-Esprit, s'il n'y a pas beaucoup de conviction de péché, c'est qu'il n'y a pas beaucoup du Saint-Esprit. Il faut être honnête. Parce que je crois que Dieu bénit quand on est honnête. Alors Seigneur, si dans l'Église, il n'y a pas les convictions de péché, comme tu le voudrais, comme cela devrait se faire, c'est qu'il y a un problème de notre côté. Alors Seigneur, tu vas nous aider. Tu vas nous aider, on va travailler ensemble. Parce que je sais que le Saint-Esprit révélera la présence de Jésus. Parce que lorsqu'il y a la présence de Jésus, Dieu ne peut amener que les âmes au calvaire, à la croix, au sang du Seigneur Jésus. Oui ou non ? À quoi les gens vont-ils être amenés par la présence de Dieu ? À la croix. Oui ou non ? C'est même pas la peine de calculer. Rien n'est étonnant de la part du Seigneur. Jésus a tout pouvoir. Est-ce qu'il l'a dit avant de remonter au ciel ? On n'a pas lu dans Matthieu 28. Mais il n'a pas dit juste avant de dire la promesse : tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que c'est vrai ? Jésus est assis sur le trône de la gloire, couronné de gloire et d'honneur. En ce moment-là où je vous parle, il est au milieu de nous, mais il est assis sur son trône, couronné de gloire et d'honneur. Il est dit, par exemple, dans Romains 14, Jésus a reçu domination sur les morts et sur les vivants. Est-ce que vous croyez que Dieu a autorité sur les morts et sur les vivants ? Il est dit dans 1 Corinthiens 15 que tout a été mis sous ses pieds, les anges, les autorités, les dominations. Tout lui est soumis. Est-ce que vous le croyez ça ? Qu'il a tout pouvoir. C'est vrai que quand un pécheur vient dans l'église, est-ce que quand un pécheur vient dans l'église pour la première fois, c'est peut-être le cas pour quelqu'un ce soir, est-ce que l'ennemi va pas tout faire pour le détourner, le distraire ? Est-ce que oui ou non, l'ennemi peut pas tout faire pour l'éloigner de Dieu ? Oui. Mais est-ce que vous croyez que Dieu est pas quand même plus puissant que l'ennemi pour amener cette personne à être convaincue de péché ? Parce que donc, oui, l'ennemi, il fait si. Écoutez, oui, d'accord, je veux bien. Mais moi, je crois que même si l'ennemi essaie de distraire un pécheur, moi, je crois que quand il y a la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché le pécheur. Dieu règne au siècle des siècles. Mais regardez avec moi, dans Lamentations de Jérémie, c'est bien expliqué dans les Lamentations de Jérémie. Dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3 et au verset 37, regardez avec moi ce qui est écrit. J'aime beaucoup ce verset. Parce que, on voit bien, ça résume bien tout ce que je suis en train de vous dire. Jérémie, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Et alors là, il y a la réponse. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Parce que Dieu règne sur tout, sauf sur le péché. Et ça, je crois que nous devons être soucieux, si nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, de dire oui, les promesses, oui, toutes les promesses que le pasteur pourrait nous rappeler, oui, celles que je lirai demain matin, oui, mais Dieu ne règne pas sur le péché. C'est pour ça que chacun d'entre nous, nous devons nous poser la question, est-ce que ça te glorifie ? Est-ce que ça, ça ne contribue pas à mettre de l'interdit dans l'Église. Est-ce que ce péché que je pratique peut être dit, oui, mais tout le monde en fait autant, c'est pas grave, comme un chrétien disait, mais moi je fume, oui, mais d'accord, mais il y a un autre chrétien qui fume aussi. Alors, mais je pense pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Sérieusement, mes frères et sœurs, je crois que nous avons un Dieu qui a tout pouvoir. Et ce soir, le Seigneur n'est pas là pour que nous donnions un sermon de plus. Le Seigneur est là pour nous rappeler ces choses dans un seul but, celui de nous bénir, celui de nous restaurer, car je crois que Dieu restaure nos âmes. Vous le croyez cela, mes frères et sœurs? Alors, il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir, mais c'est vrai quand même, on est dans l'Église, on est béni, on est gardé, on est protégé. Dans le désert, après, ils sont restés dans le désert 40 ans. Mais est-ce que Dieu était avec eux? Mais oui! Il n'est pas dit que le rocher spirituel qui les suivait, c'était Christ. Regardez toutes les promesses qui sont... Dans le désert, est-ce qu'ils ont été gardés, protégés après? Mais oui, mais bien sûr, c'était le peuple de Dieu. Mais ils n'ont pas connu le lait, le miel et l'abondance qu'ils auraient pu connaître. Eh bien, c'est pareil pour nous. Dieu nous bénit, est-ce que Dieu nous garde? Est-ce qu'on est sauvé, même si ça ne va pas trop? Mais bien sûr, si on meurt ce soir, est-ce qu'on est sauvé? Mais oui. Mais est-ce que nous voulons voir cette puissance du Saint-Esprit se déverser? Et ça, ça dépend de chacun de nous, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je parlais de la prière, mais peut-être que c'est un talent. Quand je vois la quantité de gens, dès que des jeunes se marient, c'est un truc de fou dans l'Église. Moi, j'ai vu ça, il y a des personnes, dès qu'elles se marient, c'est fini, on ne les voit plus. Moi, je crois que le mariage, c'est une bénédiction. Oui, elle est où ma femme? Est-ce que c'est une bénédiction le mariage? Monsieur de Dieu, est-ce que c'est la bénédiction? Vous, il y a combien que vous êtes mariés? 6 ans aujourd'hui? 8 ans aujourd'hui? Le mariage, c'est une bénédiction ou c'est un fardeau? Vous savez, dernièrement, j'ai discuté avec un chrétien. Un chrétien. Et je lui ai posé la question. Et je savais sa réponse. Alors, tu es content d'être marié? Ah non, je préférais quand j'étais célibataire. Il ne blaguait pas. Je lui ai posé la question parce que je savais qu'il allait me le dire. Et hélas, j'aurais aimé me tromper. Moi, je crois que c'est une bénédiction de pouvoir servir Dieu ensemble. Parce que quand on est deux à prier ensemble, l'Église est réunie, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Oui ou non? Et voyez, et tout cela, ça attriste le Saint-Esprit. Le gars, il aurait dû demander pardon, pardon. Tu m'as donné une épouse, je veux en prendre soin. Je veux être une bénédiction pour cette femme que tu m'as donnée. Quand on voit aujourd'hui que certains chrétiens parlent comme ça, oui, ça attriste le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. Et le temps me manque. On le verra une prochaine fois, peut-être mardi prochain. Mais pour vous parler des choses qui attristent vraiment le Saint-Esprit, il faut que nous comprenions une chose. Dieu n'a aucun problème avec le pécheur. Aucun. Quand le Saint-Esprit agit, il convaincra le monde de pécher. Il a voulu l'expliquer à Ézéchiel. Vous connaissez le jour où Dieu a dit à Ézéchiel, écoute, viens, je vais t'amener dans une vallée, je vais te montrer quelque chose. Dieu amène Ézéchiel dans une vallée, il y avait des ossements partout, que des os. Desséché, un cimetière ouvert. C'est terrible ça, un cimetière desséché. Est-ce que ces gens étaient bien morts? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils étaient morts? Ils étaient très morts, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'ils étaient morts ces cadavres? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu pose une question à Ézéchiel. Ézéchiel, ces os pourraient-ils revivre? Bon, lui, c'est pas trop, alors Seigneur, tu le sais. Quand vous ne savez pas, c'est le mieux. Seigneur, tu le sais. Mais là, vous avez la preuve que Dieu n'a pas de problème avec le pécheur. Parce que ces ossements desséchés représentaient la maison d'Israël qui était en très mauvais état. Quand je vous dis que Dieu n'a pas de problème avec le pécheur, vous devez le croire. Dieu peut convaincre n'importe quel pécheur. C'est encourageant pour nos familles, parce que dans nos familles, on a tous des numéros. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a tous des cas dans notre famille, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et cette affaire d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, mais devrait nous fortifier comme c'est pas possible, que Dieu peut convaincre de pécheur, n'importe quel pécheur, si mort soit-il, soit-il très mort. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous avez vu ce que Dieu va faire. Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise, il va obéir. Il ne va pas faire grand-chose, il va obéir. Quoique, se consacrer à la fin d'une réunion, c'est une chose, obéir tout le temps après, ça en est une autre. Et Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et tout d'un coup, clac, 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 clac. Vous connaissez la suite, c'est extraordinaire. Quand je vous dis que Dieu n'a pas de problème avec le pécheur, le problème de Dieu, ce n'est pas le pécheur. Le problème de Dieu, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens qui doivent se mettre en tête, et surtout dans le cœur, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Montre-moi-le. C'est pas à moi de vous dire tout ce que vous avez à faire. Est-ce que c'est à moi de vous dire, bon, alors, bon, Ina, dimanche après-midi, vous venez à la réunion d'évangélisation. Monsieur Piette, vous venez le dimanche d'après? Oui, vous venez. Monsieur Valette, vous venez le dimanche. Est-ce que c'est comme ça que ça marche dans une église? Est-ce que Dieu peut pas nous montrer à chacun ce que nous avons à faire? Moi, je le crois. Seigneur, montre-moi ce que tu attends de moi. Montre-moi ce que tu attends de moi. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Alors, maintenant, on aborde la conclusion. Que faut-il que je fasse pour que Dieu agisse au milieu de nous? Que faut-il que nous fassions pour que Dieu agisse au milieu de nous? Alors, je vais vous laisser trois textes. J'aimerais que vous les lisiez, que vous les méditiez. Par exemple, on pourrait lire un peu dans Ésaïe 57, verset 14. Ce sont des textes, moi, qui m'ont énormément aidé à réfléchir à cette prédication, justement. Quand Dieu dit, Ésaïe 57, verset 14, Dieu veut bénir, bien sûr, ça vous le savez, Dieu veut bénir, et regardez ce qu'il dit, Ésaïe 57, 14, « Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. » Regardez un peu avant, Ésaïe 40, Ésaïe 40, vous avez dans ce texte, vous avez au début, au verset 3, vous avez la solution. Une voix crie. C'est la voix de qui? Qui c'est qui crie dans ce texte? Ésaïe 40, verset 3. Vous y êtes? Qui c'est qui crie? C'est Dieu qui crie. Pourquoi il crie? Quand est-ce qu'on crie à nos enfants? Quand ils n'écoutent pas. Quand ils n'écoutent pas, on crie. C'est pas vrai? Ça veut dire que Dieu a du mal à se faire entendre. C'est ça que ça veut dire. Une voix crie. Oui, Dieu peut avoir du mal à se faire entendre. Préparez au chemin, au désert, le chemin de l'Éternel. On parle de très mal. Du désert. Préparez au désert. Mais ça veut aussi dire que même si ça va mal, eh bien Dieu peut bénir. Vous voyez ce que je veux dire? Préparez au désert. Aplanissez. Voyez? Que toute vallée soit exaucée, verset 4. Verset 5, « Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair le verra. » Préparez, des fois on dit, « Seigneur, prépare les cœurs, prépare les cœurs. » Mais le Seigneur pourrait nous dire, « Mais c'est à vous de vous préparer. » Préparez, c'est à nous. Qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai attristé le Saint-Esprit, est-ce que je peux avoir attristé le Saint-Esprit? Ah oui. Tout à l'heure, j'ai reçu un mail d'une chrétienne qui est remplie d'amertume. Elle dit, « De toute façon, avec ce qu'on m'a fait, c'est normal que j'ai de l'amertume. » Oui, on justifie son amertume par la proportion de l'épreuve. Moi, je crois que cette sœur, elle va attrister le Saint-Esprit. Et dans l'Église, elle sera un obstacle à la bénédiction. Et je crois que nous devrions dire, alors Ésaïe, je vais vous laisser un texte à méditer. Je vous demande de le faire, on n'a pas le temps parce que ça prendrait trop de temps. Peut-être on le verra mardi prochain si le Seigneur me laisse sur ce même sujet. Dans Ésaïe 63, alors, je vais vous donner la référence. Ésaïe 63, vous partirez du verset 9. Vous méditerez pour votre culte personnel, Ésaïe 63, verset 9, jusqu'au verset 6 du chapitre 64. Ça fait une vingtaine de versets. Vous le lirez. Et vous verrez que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. On le voit au verset 10, si vous y êtes. Je m'arrête à ce verset. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et voilà le problème. Il faut que si nous avons attristé le Seigneur, nous nous repentions. Vous vous rappelez quand David a attristé le Saint-Esprit, hein? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous vous rappelez ce texte, le psaume 51? Eh bien, que ça soit une évidence. Mais si nous qui sommes là ce soir, je ne sais pas combien on est, mais imaginons si chacun d'entre nous, je parle aux chrétiens, je parle à ceux qui sont baptisés, à ceux qui ont pris l'engagement de servir Dieu le jour de leur baptême, ceux qui ont dit « Oui, Jésus sera mon sauveur et Jésus sera mon Seigneur ». Si vous vous retrouvez dans cette confession de foi, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Seigneur. Bon, écoute-moi Seigneur, aide-moi, aide le pasteur en premier, mais aide-nous à chacun. Que véritablement, nous n'attristions pas ton Saint-Esprit. Si ce que je fais, c'est pas bien, j'arrête. Si j'ai un problème avec le tabac, parce qu'aujourd'hui on ne veut plus en parler, on a peur de choquer les gens. Écoutez, moi je crois que Dieu est un Dieu de délivrance. Vous le croyez que Dieu est un Dieu de délivrance? J'ai un problème avec l'alcool. Seigneur, délivre-moi de l'alcool. J'ai un problème avec la drogue. Délivre-moi. Quand on entend, moi j'ai entendu un chrétien, il me l'a dit à moi, devant sa femme. Vous comprenez, je trompe ma femme parce que c'est plus fort que moi. Mais j'ai dit à la femme, mais vous direz? Moi je crois que c'est pas sérieux ça. Les œuvres de la chair, elles sont évidentes. Renoncez-y. Alors j'y renonce. C'est pas diabolique, parce que des gens voient le diable partout, ça les arrange bien. D'ailleurs, le gars, il m'a dit, vous comprenez, j'ai un démon, ça fait que je peux pas. Vous comprenez, c'est plus fort que moi. J'ai dit, vous n'êtes pas gêné, j'ai dit. Franchement, quel mépris pour sa femme. Devant sa femme. Moi, j'étais fou, j'étais furieux. Mes frères et sœurs, renoncez à certaines choses. Renonçons à certaines choses. Et si chacun, nous sommes vrais, si nous disons, Seigneur, tu vois, je m'attends à toi. Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes. Je vais vraiment obéir à ta parole. Vous croyez que Dieu ne va pas nous éclairer à chacun? Sérieusement. Vous croyez que Dieu n'est pas capable de nous éclairer? Quand un chrétien vous dit, ah ben moi quand il n'y a pas les flics, eh ben moi je roule comme je veux sur l'autoroute. J'ai acheté le Coyote, moi je suis désolé. J'ai entendu ça d'un chrétien. Moi je suis désolé. Gendarme ou pas gendarme, Coyote ou pas Coyote, je crois que, franchement, oui, mais c'est la vérité. Mes frères et sœurs, je respecte le code de la route parce que j'obéis à Dieu. Et on pourrait multiplier les exemples, ils ne sont pas à l'infini. Mais ça nous montre pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas dans l'Église. Alors on va se recueillir. Peut-être que quelqu'un se dit, mais j'avais besoin d'entendre ça. Tu n'as pas de problème pour convaincre les gens dans ma famille. Ce n'est pas une bénédiction ça? De réentendre ce soir que Dieu n'a aucun problème avec les pécheurs, mais ça ne vous rassure pas? Bon, ça nous responsabilise maintenant de savoir que chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, nous sommes chrétiens, nous sommes sous le regard de Dieu. Nous voulons que Dieu nous parle. Nous avons prié dimanche pour avoir du discernement. C'est peut-être pour ça que Dieu a permis qu'on ait cette prédication ce soir. Seigneur, oh, tu peux convaincre mes parents, tu peux convaincre ma sœur qui est dans le péché. Oui, oui, il va le faire. Croyez-moi, il n'a pas besoin de votre aide pour le faire, sinon de votre prière. Mais que dans ma vie, rien ne t'attriste. Que dans ma vie, à la maison, parce que le problème c'est à la maison quand on est seul. Quand on est à l'église, quand on est dans la rue, c'est facile. Mais le problème c'est à la maison. C'est à la maison quand je suis seul devant mon ordinateur, devant ma télé, je ne sais rien, etc. C'est à la maison qu'on voit l'intégrité de quelqu'un. Alors Seigneur, tu me délivres. Tu m'aides. David a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Accorde-moi un esprit bien disposé. Seigneur, ce soir, donne-moi un cœur bien disposé. Jésus n'est pas là pour nous faire des sermons. Jésus, il est là pour nous délivrer. La présence de Dieu, c'est pas pour nous fatiguer. La présence de Dieu, ça nous libère. Alors pendant ce chant, peut-être ne chantez pas, mais restez là pendant les 3 minutes que dure ce chant. Eh bien, priez, Seigneur, fais-moi grâce, délivre-moi. Et il va le faire. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous. Eh bien, venez sur le devant. Eh bien, on priera pour vous. Mais soyons vrais, ne soyons pas complexés, ne soyons pas angoissés, soyons conscients que si nous faisons ce que Dieu nous demande, sa présence se manifestera. Je ne parle pas de bénédiction qui nous plairait, que le nom du Seigneur soit béni. Dirige ce moment, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen.